Bienvenue à la deuxième partie de notre série de messages d'été intitulée « Classique ». Notre petit clip illustre bien la réalité de nos frustrations lorsqu'il y a un bris, une malfonction dans nos communications électroniques. La technologie évolue, les temps changent, mais les problèmes demeurent des classiques. Ce matin, nous allons explorer ensemble comment le bris, la malfonction ou l'arrêt des communications humaines, relationnelles, sont non seulement des classiques et constantes de nos vies, mais surtout nous allons apprendre ensemble comment les contrer pour éviter la catastrophe et pour être capables de continuer à construire et continuer à conquérir. Pendant tout l'été, nous allons étudier ensemble les classiques de la foi. La définition de classique, on a vu la semaine dernière, qui ne perd pas sa valeur, qui transcende les modes et les époques, dont la valeur augmente avec le temps, qui ne doit pas être oublié, c'est un classique, tu ne dois pas l'oublier, qui se dit de ce qui est fondamental, le classique qui mérite d'être imité et doit être communiqué. De communiquer comme homme de Dieu, comme pasteur, comme berger, responsable devant Dieu. Vous savez, celui qui, comme moi, est appelé à communiquer la parole est non seulement responsable pour sa vie, mais la Bible nous dit que celui qui enseigne prenne garde, car il sera jugé encore plus sévèrement. Je vais rendre compte non seulement pour ma vie, mais pour mon message. Est-ce que j'ai été fidèle à la parole de Dieu, à bien nourrir, à bien enseigner le peuple de Dieu? C'est notre mandat. C'est pas juste une bonne idée de souligner les classiques. C'est de la foi chrétienne, c'est notre mandat devant Dieu d'annoncer, oui, mais aussi de prononcer, d'énoncer et aussi de dénoncer, de faire les énoncés de la foi, mais de dénoncer ce qui est faux. L'appel d'un homme ou d'une femme de Dieu, d'un berger qui nourrit le peuple de Dieu, c'est de consoler les affligés et d'affliger les confortables. Je ne sais pas quel des deux vous allez être ce matin, mais tout le monde va être servi égal, ça c'est sûr. Et lorsqu'on regarde à cet appel-là, il résonne dans toutes les Écritures. Et par exemple, dans l'Épître de Jude, au verset 2 à 5, il dit que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Notre seul motif, la seule motivation, c'est que vous puissiez marcher chaque personne une vie multipliée, une vie chrétienne qui est abondante, qui est riche, qui est satisfaisante, qui est dynamique. Et voici ce qui doit prendre place. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux croyants une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu, la transforment, la défigurent en dissolution et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien ces choses que... Et dans Jude, il y a cet avertissement qui est fort sur le cœur de l'homme de Dieu de dire, il faut que les gens soient, j'ai été fortement conduit, j'ai été fortement impressionné. Le mot grec, c'est j'ai été pressé par l'Esprit de Dieu de vous rappeler parce qu'il y a de l'opposition, parce qu'il y a des messagers, il y a de faux messagers, c'est toujours par transmission humaine, qui viennent. Et à l'époque de Paul, c'était des gens qui parlaient, des gens qui envoyaient des lettres. Aujourd'hui, c'est multiplié au centuple, à travers l'Internet, à travers toutes sortes de blogs, à travers toutes sortes même de regroupements de centaines de petites églises ici et là, petites ou grandes, qui ne communiquent pas la vérité, qui ont au lieu de se tenir pour la vérité de Dieu, lancent des choses qui sont selon les termes de l'apôtre ici, qui sont littéralement changeants, défigurant la grâce de Dieu. Alors moi, je vais vous rappeler ces choses que l'appel est tellement mon appel, l'appel notre mandat devant Dieu, c'est non seulement pour les nouveaux ou pour les gens d'église de vous faire découvrir toutes les richesses de Dieu, mais c'est de vous apprendre à discerner. Ma responsabilité, c'est de faire de vous des gens qui connaissent assez la parole pour discerner. Non seulement vous enthousiasmer, mais vous enraciner. Pas seulement connaître le message, confronter le mensonge. Pas seulement le témoignage, un beau témoignage, mais la théologie. La théologie, c'est logos théos, c'est la parole, c'est parler de Dieu, c'est connaître Dieu. Non seulement les promesses de Dieu, mais les principes de Dieu. Non seulement ses compassions, mais ses commandements. Il n'y a personne qui a dit amen à date. Préparez-vous, ça serait un bon moment pour dire amen spontanément dans les prochaines secondes. Non seulement la lumière de Dieu, mais les lois de Dieu. Non seulement sa grâce infinie, mais la gravité de l'ignorance face à la parole de Dieu. Non seulement sa paix, ses plans, sa patience, mais sa parole. Non seulement, parce que l'amour authentique d'un père, c'est l'apprentissage de principes qui vont protéger. Un père qui aime vraiment va donner un apprentissage afin d'équiper et de protéger l'amour du Père qui veut nous protéger par ses principes, par ses lois, l'amour de l'homme de Dieu. Non seulement, alors on commence avec le classique de la foi, Seigneur augmente notre foi, non seulement les richesses de la foi, mais ce qu'on a appelé la semaine dernière le refus qui augmente notre foi. On regarde ensemble à des éléments dans la vie d'Abraham. Si vous avez manqué le message la semaine dernière, il est déjà en ligne ce matin, vous pouvez cet après-midi rattraper. On regarde ensemble à ce refus qui augmente notre foi et on va voir ce matin le relâchement qui augmente notre foi dans la vie d'Abraham et la révélation qui augmente notre foi. On a vu ensemble le refus la semaine dernière, la voix de Dieu qui dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors du lieu du petit fruit, je veux t'appeler une vie d'abondance où tu vas, il y a une scène et quelle inondation et raz-de-marée, c'était merveilleux, de courriels j'ai reçu cette semaine de gens de l'église ici parce que le message n'était pas encore en ligne, mais de gens qui ont dit ça c'est venu me chercher, je veux pas mourir dans le lieu du petit fruit, c'est là je veux m'emparer, je refuse petite mesure, petit fruit, petite transformation, petit impact, je veux marcher dans l'ampleur, la grandeur et l'abondance de ce que Dieu a pour moi, combien on soit d'abondance ici dans ce lieu ce matin. C'est un mode de vie non seulement pour nous, mais c'est des décisions tout au long de notre vie. Après des années à servir Dieu, j'ai vécu cette expérience en 2005, alors que j'étais après un temps de jeûne prolongé, puis il y avait un bouleversement dans mon esprit, soif pour plus. Et je suis allé déjeuner, prendre un café avec un ami qui est dans le ministère, et puis on se connaît depuis 20 ans auparavant, à ce moment-là, alors aujourd'hui encore plus, mais en 2005, 20 ans et plus d'amitié, mais on était assis ensemble, un frère qui œuvre ailleurs en région, puis on était assis ensemble au déjeuner, et il s'est mis à me dire ses plaintes et puis à cause de il se passe ici, il arrive ça et puis il y a pas de vision et on est limité, il y a ça et on était assis ensemble, je l'écoutais puis moi je répondais oui c'est vrai, t'as raison, etc. Et lorsqu'on est sorti du restaurant, j'ai eu cette, c'est pas une vision, on était ici sur Saint-Charles puis je marchais ensemble et j'ai été frappé par la réalité, je me suis vu sortir d'un resto 5 ans, 10 ans, 20 ans avant avec lui, puis on avait les mêmes discours, les mêmes plaintes, mais jamais le courage d'arrêter puis de faire une différence, d'arrêter puis de dire c'est assez. Et j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu, puis on marchait ensemble sur le trottoir, puis j'ai pris le bras, puis j'ai dit écoute Dan, je veux juste te dire, là, je t'aime, t'es mon ami, on va toujours être amis, mais moi là, il y a 20 ans, on marchait sur ce trottoir-là où on se plaint puis on change pas les choses, moi là, je change de trottoir. Il dit, je vais y aller avec toi, je vais traverser avec toi, on change. Je dis, t'es-tu en plein milieu de la rue, sur Saint-Charles, t'es-tu prête? On va changer de trottoir, on va créer quelque chose ensemble, on va changer de trottoir. Et j'avais dit ça à l'église quelques semaines avant, et puis un ingénieur de notre église qui travaillait à ce moment-là sur un projet, sur un pont, qui est arrivé, il est allé chercher sa prête, les gars de Nouvelle-Vie sont prêts à tout, il est allé chercher un morceau de trottoir, et il me l'a mis sur une plaque, 2005, moi, je change de trottoir, et il est dans mon bureau encore aujourd'hui à chaque fois. À chaque fois que j'entre dans mon bureau, je suis rappelé que ce refus n'est pas une affaire d'une fois, c'est un mode de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce lieu ce matin qui a un rugissement dans son âme? Je change de trottoir, je veux entrer dans l'abondance de ce que Dieu a pour moi. Dites à la personne près de vous, change de trottoir, dites ça à la personne près de vous. Alors ce matin, on regarde ensemble, on suit Abraham, on est dans le livre de la Genèse, le livre des commencements, des fondements, et Abraham est notre modèle de foi, et on a vu ensemble que Abraham, la première étape, c'est ce refus au chapitre 12, puis on arrive au chapitre 13 ensemble, et je vais vous donner le contexte juste avant de lire le verset, on va parler de ce qu'on appelle, c'est un immuable du royaume de Dieu pour que votre foi augmente, c'est un relâchement, c'est un mode de vie avec un refus, puis c'est un mode de vie avec un relâchement. Il y a un relâchement relationnel absolument essentiel. Et Abraham nous le modèle d'une manière magnifique. La première étape, il va refuser de mourir dans le lieu du petit fruit. Et dans chapitre 13, vous regarderez les premiers versets du chapitre, il avance bien, il avance vers la terre promise, il avance d'étape en étape et il est béni. Abraham est un homme qui est prospère, est un homme, la Bible parle ouvertement des richesses qu'il a acquises, il a développé une armée, il a une armée de serviteurs et de soldats à la défense, et il marche, c'est un chemin périlleux, c'est un pèlerinage, c'est un portrait de nous qui marchons dans la bénédiction, qui marchons aussi avec des soldats qui marchons dans le combat spirituel, et alors qu'il marche dans ce combat, il a avec lui son neveu Lot, les chapitres précédents nous disent que le père de Lot est décédé, alors Abraham devient comme un père pour son neveu, Et il s'occupe de lui, il est son bienfaiteur, il lui donne son propre troupeau et Lot va grandir aussi, et Lot va prospérer, puis ils avancent ensemble et on arrive au chapitre 13 et au verset 7. Et au verset 6, ça dit, le contexte, la contrée est insuffisante parce pour qu'ils demeurent ensemble car leur bien était considérable. Et il y eut, verset 7, le verset apparaît à l'écran, de Genèse 13, il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Et à plusieurs égards, c'est un portrait prophétique d'une large portion du corps de Christ aujourd'hui. Regardez ce qui se passe ici. Vous avez des leaders en conflit les uns avec les autres alors qu'ils sont entourés d'ennemis. Alors qu'ils sont, devraient combattre ce qu'il y a, devraient combattre contre le mal, contre les captivités, contre les dépendances, contre le péché, contre les ténèbres, contre l'injustice. Elles sont entourées. Il y a une menace partout autour d'eux, mais eux sont en déchirement les uns avec les autres. Une église en déchirement avec une autre. Dans l'église, un groupe avec un autre. Un mouvement d'église en déchirement avec un autre. À la province de Québec, en ce moment, un des plus grands empêcheurs de développement de vision, c'est une division qui mène à une autre division, puis il mène à une autre division. Il y a des régions et des villes dans la province de Québec où il y avait 10 églises en 1980. Il y en a 20. Oui, il y en a 30 en 2017, mais il n'y a pas un chrétien de plus, c'est juste les 10 églises qui sont divisées. Et là, alors, quel portrait? Alors qu'il commence à y avoir ces conflits entre eux, et là, il y a les leaders qui doivent réagir. C'est Abraham, c'est Lot, c'est leurs bergers qui sont en conflit. Et au verset 8, Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de conflit, de déchirement, de division, de dispute entre nous, entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers. » Il est conscient de son influence. Il est conscient que ses décisions vont affecter, qu'il a un modèle à donner, qu'il a un exemple à donner, qu'il a à incarner quelque chose et que les gens vont suivre. Abraham dit qu'il n'y a pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Voulez-vous dire à voix haute avec moi, car nous sommes frères? Et là, il y a quelque chose qui prend place, qu'il faut que vous compreniez le contexte pour comprendre toute l'ampleur, parce que vous avez lu ça avec moi, vous avez écouté, mais c'est certain que lorsque Abraham a fait un rassemblement et que tous les bergers en chicane regardent aux deux boss pour savoir, aux deux patrons, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, et qu'Abraham dit qu'il n'y a pas de conflit entre nous, car nous sommes frères. Et ce qu'il dira, le prochain verset, vous lirez à la maison, c'est « Prends le terrain que tu veux, moi je vais me retirer, je vais aller ailleurs, prends, je te donne toute la place. » Vous pouvez être certain que la foule qui était là, les bergers en querelle, ont eu un « Ben voyons donc! » Parce que dans la culture de toute la culture judaïque pousse vers, ils étaient imprégnés de ça depuis leur enfance, le respect pour l'aîné, le respect pour le père, le respect pour le bienfaiteur, et d'une manière purement logique, purement à leur époque culturelle, ça aurait dû être Lot, le jeune qui serait mort sans Abraham et qui aurait rien eu sans lui, qui c'est Abraham qui l'avait permis d'être béni, ça aurait dû être Lot qui se dit, ben voyons donc jamais, ça aurait dû être Lot qui aurait arrêté les querelles bien avant et dire non, on va se retirer, mais il y a quelque chose dans le cœur de l'autre qu'on va voir plus tard aussi, mais il y a quelque chose dans son cœur. Et lorsque Abraham dit qu'il n'y a pas de querelle entre nous, nous sommes frères, et qu'il va choisir, va laisser l'autre choisir, et bien sûr, va prendre les terres qui avaient l'air les plus abondantes, les plus riches, les plus prospérantes sur le bord de Sodome, et que Abraham va se retrouver sur le terrain sec qui allait de rien, vous pouvez être sûr que t'entends, entre les lignes du verset, vous entendez des centaines de voix des serviteurs dire, mais comment ça? Puis comment tu le laisses faire? Puis pourquoi tu le laisses ambitionner sur toi? Oh, l'espèce d'ingrat, après tout ce que t'as fait pour lui, puis c'est comme ça qu'il te repaye. En plus, il n'y a rien, c'est toi qui as l'armée. Quand l'armée, laisse-toi pas faire, laisse-le pas gagner, laisse-le pas te faire perdre la face. Mais Abraham est animé d'un esprit différent. Il est animé d'un esprit, ce n'est pas important pour lui s'il semble perdre la face devant les hommes. Il ne veut pas perdre la face de Dieu sur sa vie. Qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. Nous sommes frères. Je vais relâcher. Je vais relâcher. Et c'est un esprit qui est supposé être l'esprit qui anime l'Église de Christ au milieu de toutes les générations. Mais au milieu de nous, nous allons bâtir le royaume de Dieu dans une époque dans l'histoire, dans cette fin des temps, dans une époque de l'histoire que on pourrait même appeler la génération Bataclan. La génération Bataclan. C'est un article qui avait paru quelques semaines après le 15 novembre 2015, lorsque 90 personnes ont été assassinées par des membres de l'État islamique et, dans un théâtre. Et moi, c'est une image qui reste avec moi très, 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 très profonde, parce que j'ai prêché au Bataclan un an auparavant. J'ai prêché un message d'unité devant 2000 à 3000 chrétiens, 2 ans avant, sur ce théâtre, au Bataclan, où j'ai apporté un appel à l'unité spirituelle de Abraham à Amalek, à Abishai jusqu'à Antioche, et où 3000 chrétiens se sont agenouillés pour prier, Seigneur, aide-nous à être des voix contre la haine, à être des voix contre la division, à être des voix contre, et qu'on se retrouve quelques mois plus tard avec, et l'article disait ceci, la génération Bataclan, une génération meurtrie, de conflits et de haine, de divisions racistes et sociales sans précédent, une génération méfiante, blessée, méfiante à l'égard de l'étranger, de ceux qui sont différents, de ceux qui viennent d'ailleurs, ou de ceux qui croient différemment, ou ont des opinions différentes et valeurs différentes des leurs. Une génération violemment secouée par le radicalisme religieux. Une génération où les conflits intergénérationnels, philosophiques et religieux sont à leur paroxysme. Une génération pour qui l'expérience religieuse est synonyme de haine et de violence et de déchirement, et où l'expérience religieuse est une plaie à éradiquer. Et l'article a raison. Nous sommes dans une époque comme aucune autre où le premier réflexe de beaucoup de gens, c'est le religieux amène juste de la haine, amène juste des conflits, amène juste de l'abaissement, amène juste du jugement. Et l'Église de Jésus-Christ doit, dans ces temps de ténèbres, c'est ça notre appel, c'est pas de venir remplir une chaise le dimanche à l'Église. Ensemble, élever une génération qui va, par l'amour que nous avons, le pardon que nous avons, la grâce que nous avons, la capacité réconciliatrice que nous avons, la capacité de multiculture dans un même village, nouvelle vie, de non seulement cohabiter, mais de s'aider, de semer, de combattre pour la justice. Nous devons briller et élever une voix et un peuple modèle pour la terre entière qui dit qu'il n'y a pas de conflit entre nous. Nous sommes frères. Qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. Nous sommes frères. Et Abraham n'était pas préoccupé par perdre la face. Trop de chrétiens ont perdu la face de Dieu il y a longtemps parce que tu as voulu sauver ta face. Avoir raison à tout prix. Garder l'offense. Abraham n'écoutait pas les voix. Toutes ces voix-là. Laisse-le pas faire. Laisse-le pas. En tout cas, lui, là, toutes ces voix-là autour de l'Abraham, c'est pas ce voix-là que je cherche. Abraham cherchait une autre voix. Cherchant à entendre qu'est-ce que Dieu va dire, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu va répondre à mon cœur qui relâche, à ce cœur de relâchement. Et vous avez la réponse de Dieu au verset 14 à 17 de Genèse 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je vais rendre ta postérité, tes enfants, comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, sa postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, toute sa largeur, car je te le donnerai. Dieu dit à Abraham, parce que tu as relâché, regarde maintenant comment ce relâchement va t'augmenter. Va augmenter ta foi, va augmenter comment le relâchement dans ta vie d'une offense, de blessure, de déception, de quel que soit, d'échec. Le relâchement, c'est un mode de vie. Je refuse et je relâche. Qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas cette division qui demeure, nous sommes frères, devient. Regardez bien tout ce que le relâchement augmente. Le relâchement augmente la clarté. Comment on va voir? Lève les yeux. Parce que tu as relâché, lève les yeux d'où tu es et vois tout le pays. Parce que l'amertume nous rend aveugles. J'ai vu ça, moi, après 30 quelques années comme pasteur, comme berger, dans la vie de tellement de gens. L'amertume nous rend aveugles aux bonnes choses que Dieu nous a données, aux qualités des autres personnes, à nos bénédictions, à nos propres torts. L'amertume, le non-pardon, nous rend aveugles à nos propres torts, à notre propre responsabilité dans le conflit. Nous rend aveugles aux nouvelles relations que nous pourrions développer. Tu deviens méfiant, tu deviens isolé, tu deviens refermé sur toi-même, tu n'as confiance en personne. Te rend aveugle aux patterns en nous qui empêchent des bonnes relations, des choses que tu fais continuellement, qui brisent les relations, puis après ça, tu es de plus en plus amer. Mais le non-pardon te rend aveugle, mais le pardon, la grâce, le relâchement t'ouvre les yeux pour voir tout ce que Dieu a pour toi. Tourne les yeux pour voir. Ça augmente ta clarté, ça augmente la communication, versets 15 et 16. Toi, parce que tu as fait ça, parce que tu as relâché, toi et ta postérité. Je vais donner à toi et à tes enfants. L'amertume empoisonne, divise, entache, enlaidit, annule notre témoignage auprès de nos enfants. Il ne peut pas être plus pratique que ça pour ceux qui regardent par vidéo, ceux qui sont ici, ceux qui vont regarder par Internet. Les enfants qui grandissent dans une maison où les parents chrétiens abaissent l'Église, la méprisent, parlent de leurs conflits, restent en conflit, arrivent le dimanche et chantent l'amour de Dieu, alors que la semaine, ils sont pleins de colère, pleins de frustration, pleins de critiques tout le temps, annulent et étouffent et souvent avortent l'appel de Dieu, le message. Le message ne veut plus rien dire. Le pardon, qu'il n'y a pas de conflit entre nous, nous sommes frères. Multiplie et augmente ta foi, communique la communication de ta foi à tes enfants et aux gens autour de toi. C'est une des choses qui va marquer le plus des enfants et des jeunes, de voir leurs parents, lorsqu'ils sont offensés, aimés, de voir leurs parents pardonnés, de voir leurs parents relâchés, échecs et autres, et offenses. Le relâchement augmente la communication, la clarté. Le relâchement augmente la concrétisation des promesses de Dieu. Il dit, car tout le pays, tu vois maintenant tout ce pays que je te donnerai. L'amertume produit des trésors non réclamés, des destinées qui ne se concrétisent jamais. À toutes les mi-années, ils sortaient dans le journal, il y a deux semaines, dans la presse plus, ils ont sorti un article. À chaque fois, moi, ça me fait rêver sur le nombre de millions de dollars qui sont non réclamés. Des billets de loto, là, t'achètes pas de billets, t'as moins de chances de gagner. Alors, j'ai des billets de loto non réclamés, des héritages non réclamés depuis 50 ans. Et là, il disait, tenez-vous bien, dans le dernier 10 ans, au Québec, 161 millions de dollars non réclamés. Puis il y a une liste, il y en a qui vont aller voir tout de suite après la réunion, voir si on n'a pas oublié quelque chose dans un compte à quelque part. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, ouais, imagine-toi, tout ça, c'est déjà, comment ça se fait? Mais il y avait quelque chose dans mon esprit, c'est rien. Le 161 millions de dollars, il n'y a rien aux trésors spirituels non réclamés qui sont laissés dans les mains de Dieu à cause de l'amertume qui t'empêche d'aller chercher le trésor, d'aller chercher la destinée, d'aller chercher ton appel, d'aller chercher une relation, d'aller chercher ton ministère, d'aller chercher... Je dis à quelqu'un, laisse rien non réclamé. Laisse le pardon, le relâchement te permettre d'aller concrétiser les promesses de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus, quelqu'un devrait dire amen. Ça augmente la concrétisation, la communication, ça augmente la clarté, ça augmente le courage de continuer pour conquérir. Lève-toi et parcours le pays dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, et je te le redonnerai. Il faut relâcher pour être capable de se relever. Lève-toi et remets-toi à marcher. Le non-pardon, l'amertume, c'est comme des sables mouvants dans lesquels tu t'enlises de plus en plus. Il y a tellement de... Je parle, je prie que Dieu me donne une onction à ce moment-ci. Le pardon, qu'il n'y a pas de conflit entre nous. Nous sommes frères. Ce relâchement-là permet... C'est comme si c'était la main de Dieu pour toi ce matin, qui c'était alors que tu étais en train de couler dans les sables mouvants de ton amertume, de ton non-relâchement, de ton obsession, de ton tourment, de tout ce qui est arrivé. Si tu ne le relâches pas, tu coules. Mais ce matin, la main de Dieu est tendue envers toi. Et dans ce relâchement-là, sa main peut te sortir de là ce matin, peut être un changement radical dans ta vie pour reprendre le chemin où tu entends la voix de Dieu qui dit « Lève-toi, essuie-toi et marche. J'ai encore des choses pour toi à accomplir, à parcourir, à aller conquérir. » Et non seulement ça augmente notre clarté, communication, la concrétisation des promesses de Dieu, le courage de conquérir, mais le relâchement augmente la capacité de compassion et de combat. Manquez pas ceci, l'amertume et le non-pardon nous rend insensibles, incapables d'aller libérer d'autres. Disqualifié pour être utilisé de Dieu pour aller combattre avec compassion. Sourd aux besoins des gens. Nous devenons obsédés par notre offense. On a tous connu, et peut-être qu'on a été, cette personne qui n'est même pas capable de voir les besoins autour d'elle, pas capable de voir les choses créées autour d'elle, parce que tout ce qu'il voit, c'est son offense. C'est sa blessure, c'est son échec, c'est son regret, c'est ce qui n'est pas arrivé, c'est comment ça se fait que le conflit, la division, Il y a quelque chose de magnifique. Si vous saisissez ceci, ça change tout. Abraham va relâcher son neveu Lot. Il le relâche. Va. Qu'il n'y a pas de conflit entre nous. Nous sommes frères. Va. Et Lot part vers les terres qui ont l'air les plus abondantes, sur le bord de Sodome, sur le bord de Gomorrhe. Et lui, alors qu'Abraham se tient sur une terre qui semble desséchée, le ciel s'ouvre et Dieu dit, ouf. Parce que tu as fait ça, là, je vais te bénir, tes enfants vont être bénis, je vais te pourvoir, je vais te prospérer, tu vas avancer nord, sud, est, ouest, je vais te donner des promesses, je vais te lever les yeux, je vais te trouver les yeux. Et tout de suite, au chapitre suivant, Nous avons cet événement qui prend place où il y a des comme encore comme aujourd'hui là. Il y a rien de nouveau avec l'État islamique et d'autres. Il y avait des bandes de milliers de terroristes violents qui kidnappaient les gens comme Boko Haram et tout ça encore aujourd'hui et à cette époque-là aussi. Et on lit dans le chapitre suivant, ils ont kidnappé plein de gens, mais ils kidnappèrent aussi Lot, le neveu d'Abraham qui a été pardonné. Le fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome, un survivant vint l'annoncer à Abraham. Et dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il... Qu'est-ce que vous auriez dit? Non, vous là, vous, moi. Qu'est-ce que vous auriez dit? On vient t'apprendre que Lot a été fait prisonnier. Qu'est-ce que vous auriez dit? Ben bon pour lui. C'est ça qui arrive tant qu'on va à Sodome. C'est comme ça, après tout ce que j'ai fait pour moi, tu m'as traité de même. Ah, ma mère, elle disait, crache en l'air, ça va te tomber sur le nez. C'est des proverbes qui ne sont pas des proverbes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Espèce de, puis le prisonnier, ton neveu Lot a été fait prisonnier. Rien à voir avec moi. Après tout ce que j'ai fait pour lui, pas mon problème. Avec tout ce qui m'est... La question, la dynamique est hallucinante. C'est seulement parce que son cœur avait relâché. Qu'il était capable d'être encore ému de compassion. Et c'est seulement parce que son cœur avait relâché qu'il était capable de stimuler, de motiver et d'appeler ses serviteurs qui avaient assisté au conflit à venir avec lui, risquer leur vie pour aller le délivrer. Est-ce que tu comprends qu'il y a des gens, il y a des œuvres, il y a des actions extraordinaires, des accomplissements extraordinaires, il y a des relations que Dieu voudrait se servir de toi pour les restaurer, se servir de toi pour rebâtir. Tu pourras même pas les voir ou les entendre si tu gardes l'offense. Il faut relâcher pour être capable, comme Abraham, un survivant vient l'annoncer, le verset suivant, Abraham. Et dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Il avait assisté à tout ça, il avait assisté à tout le conflit, s'il avait nourri, si pendant des années après, il avait dit, en tout cas, cette espèce de Lot, là, je te dis, ça se peut, tu sais, après tout ce qu'il m'a fait, incroyable. T'en souviens-tu la fois que je l'avais aidé, Regarde, c'est comme ça qu'il nous repaye. Hallucinant. Incroyable. En tout cas, je sais pas ce qui va y arriver à Sodome, on verra. En tout cas, c'est pas moi qui va. Non. S'il avait pas nourri ça, son qu'il n'y a pas de conflit entre nous, nous sommes frères, était devenu un mode de vie, était devenu un esprit. Tous les serviteurs, lorsqu'ils entendent que Lot est prisonnier, ils voient Abraham se lever, le même qui avait dit qu'il n'y a pas de conflit. On va vous armer maintenant, on va poursuivre les rois ennemis jusqu'à Dan pour attaquer et pour libérer son frère. Lot, il l'appelle encore son frère. Il les bâtit et ramena tous les trésors, ainsi que Lot, son frère, la femme et tout le peuple. Le Dieu veut élever. Manquez pas ceci, veut élever une génération d'hommes et de femmes de Dieu que, quelle que soit l'offense qui a pris place, vont la relâcher, quel que soit l'échec, vont la relâcher afin d'être capables de continuer à être utilisés de Dieu pour amener réconciliation, paix, délivrance à ceux qui en ont besoin. Quelqu'un devrait dire amen, c'est à vous que le Seigneur parle ce matin. Est-ce qu'on peut l'applaudir ensemble? Dans toutes les sphères de la vie, cette dynamique... négative si tu ne la fais pas, mais positive si tu y entres, est en opération dans chaque sphère relationnelle de nos vies. J'ai vécu un divorce. Relâche. Il faut que tu relâches pour que tu puisses te rétablir. Une division dans ma famille, avec mon frère, avec ma soeur, avec mes parents, je ne pourrais jamais penser que c'est une division. Relâche afin de pouvoir ramener la paix. Dieu veut se servir de toi. Une défaite au travail. Un employé qui m'a brisé le cœur. Un patron, une situation, une injustice. Relâche afin de pouvoir te relever, afin de pouvoir reprendre. Un deuil, il y a quelqu'un qui est décédé, il y a un deuil. Je ne comprends pas. Relâcher afin de pouvoir revivre. Une déception, un déchirement dans ta propre maison, mes enfants, mon fils, ma fille, les parents qui ont... L'offense est tellement grande. Dans ma maison, dans mon église, une déception, un déchirement. Relâche afin que Dieu puisse amener la restauration et afin que Dieu puisse amener la résurrection. Moi, j'ai vu cette dynamique. L'Église chrétienne, là, moi, j'ai fait 35 pays dans le monde. L'Église chrétienne, lorsqu'elle brille avec « il n'y a pas de conflit entre nous, nous sommes frères », et se laisse remplir de l'amour de Dieu qui rend possible des niveaux de compassion et de pardon et d'amour qui sont complètement sans mesure, sans limite, elle est belle, elle brille et elle coupe le souffle. Moi, j'ai vu des gens dans les endroits les plus divisés du monde. J'ai eu le privilège d'adresser avec le pasteur David Davis, qui est pasteur littéralement de Ha Carmel, qui est l'assemblée Carmel sur le mont Carmel en Israël. Il y a une église évangélique chrétienne qui est là. Et il y a un centre qui a été fondé par Défi Jeunesse avec David Wilkerson et qui s'appelle Victory Center, qui est un centre de réhabilitation, le seul au Moyen-Orient, un centre de réhabilitation où juifs et arabes toxicomanes sont là ensemble. Les intervenants sont juifs et sont arabes. Les gars qui sont dans le centre sont là et sont là ensemble, unis pour devenir libérés un en Christ ou les conflits d'avant. C'est un endroit, c'est comme un oasis au milieu de générations qui ont grandi en saisissant. J'ai vu la même chose en Irlande. J'étais en Irlande où des anciens cathos et des anciens protestants religieux dont les parents et grands-parents se sont affrontés, se sont haïs, se sont méprisés, devenir un dans le pardon, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai vu au Burundi, où les deux tribus, après les massacres, après les génocides d'une tribu sur l'autre, de voir l'Église, les leaders de l'Église et les leaders devenir les leaders nationaux pour la paix et pour la réconciliation. Je l'ai vu lorsque j'étais à Katmandou, au Népal. Il y a une église qui est là où j'ai apporté la parole à une conférence de pasteurs avec 300 ou 400 pasteurs. Et l'homme qui est là a été emprisonné plusieurs fois par des hindous et torturé et tout. Et lorsqu'il sortait avec toutes les conséquences qui viennent de torture et une des choses qui prenait place à Katmandou en particulier sur 30, 40, 50 ans, c'est que les hommes qui avaient le pouvoir dans la ville, les hommes religieux pouvoir dans la ville avaient des femmes, les femmes, et les femmes de la ville étaient des femmes riches, étaient des femmes qui participaient des femmes. Ce pasteur-là me racontait comment la femme du maire avait pas aimé quelque chose qu'elle avait entendu parler de l'Église et elle l'a fait emprisonner. Et ces femmes-là, lorsque leur mari décède, sont mises à la rue. La femme qui avait été si riche devient mise à la rue parce que son mari est décédé. Et savez-vous qui les restaure, qui les accueille? À côté de l'Église, il y a des logements, des bâtiments, et toutes les femmes qui sont là sont anciennement des femmes qui avaient persécuté pendant des années l'Église avec leur mari, avaient torturé, mais qui sont accueillis par l'Église chrétienne, qui leur ouvre les bras, qui les nourrissent, qui les logent et qui les couvrent de pardon et de grâce et d'amour. Je vous parle de quelque chose un petit peu plus grand que de venir à l'Église le dimanche, un petit peu plus grand que chanter des chansons, mais je reste stocké, je reste embourbé dans mon amertume des années de temps. Au nom de Jésus, que l'Église de Christ saisisse le classique, qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. Nous sommes frères! Quelqu'un devrait dire amen. Le refus qui augmente notre foi, je ne mourrai pas dans le lieu du petit fruit. Le relâchement, et je termine avec ceci, et là, au chapitre, avec ce relâchement, il y a une révélation qui augmente notre foi. Vous savez qu'Abraham avait reçu du Seigneur son appel, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Très particulier, je ne passe pas en affaire d'orgueil ou d'élever, c'est ton nom va devenir quelque chose, va représenter, ton identité va devenir quelque chose, je vais rendre ton nom grand, puis tu vas devenir une source de bénédiction. Parce que tu as refusé et que tu as de mourir dans le lieu du petit fruit, que tu as relâché, je te fais découvrir cette révélation. Ne manquez pas ceci. C'est ce pardon, cette capacité de relâcher qui deviendra ta carte d'identité, ton nom, ton facteur déterminant, l'élément qui te distinguera de toutes les autres religions ou mouvements humains. Et Dieu va poursuivre à toutes sortes d'endroits à cette révélation-là avec Abraham. Au chapitre 14, 16, qu'on a lu ensemble, à ce moment-là, tout ton héritage va être comme la poussière de la terre. Ça parle de son héritage terrestre, ça parle d'être humain. C'est tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ, qui deviennent fils et filles, notre père dans la foi Abraham, qui était la racine, le rocher de départ. Mais aussi, ton héritage va être comme les étoiles du ciel. Tu ne peux pas compter le sel, tu ne peux pas compter la poussière de la terre, les étoiles du ciel, des êtres humains, poussière de la terre, avec une destinée du ciel, une destinée éternelle. Et on t'appellera, c'est son nom, on t'appellera celui qui devient un peuple qui bénira toutes les familles de la terre. Les religions, les philosophies, les grandes puissances, les mouvements politiques essaient de conquérir au fil des siècles par la force, par la frayeur, par les faveurs, afin d'obtenir fortune. Mais Dieu dit, je vais élever un peuple sur la terre, le peuple qui relâche, le peuple sur la terre qui, lui, va bâtir une famille. Une famille d'hommes et de femmes. C'était tellement insensé. Dieu parle à cet homme dans une nation qui est minuscule, qui n'est même pas une nation encore, et qui, personnellement, à ce moment-là de sa vie, n'est pas capable d'avoir d'enfants. Il lui dit, de toi va naître un peuple, une nation qui va devenir une famille pour toute la terre. Le peuple de Dieu. l'Église chrétienne sur la surface de la terre. Et ton identification va être, c'est ça qui va te distinguer. Le relâchement, le pardon, la compassion, l'amour, le sens de communauté, de respect de tous. La passion à aider et secourir, même ceux qui étaient nos ennemis, même ceux qui sont différents, quel que soit où ils sont dans le monde, la couleur de leur peau. La capacité divine de réconciliation et de communauté authentique dans la paix deviendra un nom, une famille, un peuple qui va toucher la terre entière jusqu'en 2017. Le peuple chrétien, 1 milliard de personnes sur la terre. Jésus dit, c'est à cet amour-là et rien d'autre, que vous, comment vous vous aimez les uns les autres, qu'ils vont voir que vous êtes mes disciples, et je ne le fais pas ce matin, mais dans une série de messages qui durent plusieurs heures, je fais de Abraham à Amalek à Abishai, et on traverse toutes les A possibles jusqu'à l'église d'Antioche, puis je veux juste que vous voyez ça ce matin en terminant. Tu vas, littéralement, il y a une révélation que le peuple qui relâche, c'est comme ça qu'ils vont représenter Dieu. C'est comme ça que le monde en division et en déchirement va voir Dieu sur la terre à travers eux. Et c'est comme ça, dans les débuts de l'Église du Nouveau Testament, qu'à l'Église d'Antioche, c'est le dernier texte que je vais lire, mais à l'Église d'Antioche, nous lisons verset 19 de Acte 11, qui est « Jésus est mort, il est ressuscité, maintenant l'Église débute. À Jérusalem, il y a une persécution de fous où Saul de Tarse, l'intégriste meurtrier, a mis à mort des gens et Étienne a été lapidé et on a pris son vêtement souillé de sang pour l'amener au pied de ce fou meurtrier, cet intégriste qui s'appelait Saul de Tarse, qui au lieu de tomber sur ses genoux avec repentance est galvanisé par le sang de celui qui l'a persécuté et qui va continuer jusqu'à ce que Dieu lui apparaisse sur la route de Damas et que Jésus se révèle à lui. Puis on arrive au chapitre 11 et le verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution sont revenus à l'occasion d'Étienne, qui est l'ancien qui s'était fait assassiner, martyr aux yeux de Paul, avec l'approbation de Saul, allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Mais il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient aussi venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Ils annoncèrent la bonne nouvelle de Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il a vu la grâce de Dieu. Il s'est réjoui. Il les exhorta à tous rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur parce qu'il était un homme de foi, de bien, rempli du Saint-Esprit. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Regardez ça un instant. Les chrétiens de Jérusalem sont persécutés, on brûle leur maison, on enlève tout, on assassine Étienne et à cause de ça, ils doivent quitter. Ils sont des réfugiés, comme vous envoyez des centaines de milliers aujourd'hui. Ils doivent quitter, ils sont des migrants. Ils doivent quitter pour sauver leur peau. Ils se retrouvent déracinés complètement avec rien. On part à zéro à Antioche et humainement, à chaque soir qu'ils soient... et puis là, on n'a pas d'organisation mondiale pour les aider. Ils sont toujours à une nuit de crevée de faim. Et à chaque soir, humainement, ils pourraient dire, c'est tout à cause de Saul de Tarse. C'est lui qui nous a amenés ici. C'est lui qui nous a. Mais l'Évangile en eux, la grâce de Dieu en eux, le relâchement en eux par l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu était sur eux, font en sorte qu'ils se rassemblent, ils commencent à communiquer l'Évangile, commencent à aimer Dieu, à servir Dieu, à avancer. Ils le font avec, c'était des Juifs, ils le font avec des Juifs, mais le cœur de Dieu se communique, ils vont vers des non-Juifs, ce qui pour eux est absolument une première. Et la grâce de Dieu, ils commencent à avoir toutes sortes d'affaires, là. Il y a du monde, il y a une foule. Si vous lisez quelques versets suivants, ils sont généreux, ils font exactement ce qu'on a fait ce matin. Il y a une famine à l'époque, et ces gens-là, si pauvres, prennent une offrande pour la famine. Il y a une foule, il y a des saluts, il y a de l'enthousiasme, il y a des œuvres humanitaires, il y a de la compassion. Un peu plus loin, on lira qu'il y a un homme qui est là, qui joint à eux, qui s'appelle Apollos, puis c'est un prédicateur, un homme qui avait une prédication extraordinaire. OK, on a la prédication, on a des œuvres de compassion, on a la grâce de Dieu, on a une foule. Et ça vient aux oreilles des leaders de l'Église de Jérusalem qui doivent protéger le classique, qui doivent s'assurer, parce que déjà à ce moment-là, il y avait toutes sortes de fausses églises, faux Christ qui viennent diffamer le nom du Seigneur, comme il a été dit dans Jude. Alors, on choisit un homme, Barnabas, pour aller voir. Va voir si c'est vrai. Va voir si c'est authentique. Va voir si c'est vraiment chrétien. Si c'est vraiment le peuple, la famille de Dieu que je veux élever sur la terre. C'est important. C'est les fondements, là. C'est l'arbre que tu plantes. C'est la fondation. C'est de là que tout va découler. Alors, on envoie Barnabas qui arrive. Il voit tout ça. C'est impressionnant. Il y a de la prédication. Il y a des gens qui sont sauvés. La grâce de Dieu est là. Il y a de la compassion. Des Juifs et non-Juifs ensemble. Wow! C'est fort. Jamais ces gens-là auraient été mis dans la même pièce avant. Puis là, ils sont ensemble. Et puis, il y a de la compassion pour la famine et tout ça. Et Barnabas a une mission très importante. Est-ce que c'est de Dieu? Alors, le Seigneur le conduit à faire quelque chose de spécial. Il dit, restez là, continuez. Restez accrochés au Seigneur. Restez fermes dans le Seigneur. Je vais revenir. Il part, il a besoin de tester profondément si les personnes sont vraiment habitées de l'Esprit de Christ. Alors, il s'en va et la Bible nous dit dans le verset suivant qu'il va se rendre. Et au verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul de Tarse, qui entre-temps s'était converti et même les disciples ne voulaient pas le croire. Ils ne voulaient pas croire, ça ne se peut pas lui, surtout pas lui. Et il va chercher Saul de Tarse, il le retrouve à Tarse, qui est maintenant devenu l'apôtre Paul, mais c'est ses premiers balbutiements. Puis il dit à l'apôtre Paul, viens-t'en, on va faire un voyage ensemble. Ça dure des jours, des semaines pour se rendre. Et je ne sais pas, mais on n'a pas la conversation, mais lorsque je vais arriver au ciel, c'est le premier DVD que je vais aller chercher. Mais je suis certain que ça s'est passé comme finalement Paul, puis lui, il est avec Barnabas, un des hommes, lui, c'est un jeune croyant, et l'apôtre Paul est tourmenté par les péchés qu'il a fait, par le mal qu'il a fait jusqu'à la fin de sa vie, 30 ans plus tard. Il dira, moi qui ai persécuté les chrétiens, tout le mal que j'ai fait, le pire des pécheurs, c'était moi. Puis ils marchent ensemble, puis lui dit, finalement, on s'en va où, Barnabas? Je te le dirai plus tard. On marche, on prend un bateau, on s'en va. On s'en va où, Barnabas? On s'en va où, finalement? On s'en va à Antioche. Non, je veux pas aller là. Pas Antioche, pas eux, je leur ai fait tellement de mal. Pas eux, non, il y en a là-dedans, ils ont tout perdu à cause de moi. Il y a la famille d'Étienne qui est là, que j'ai qu'on a mis à mort. Amène-moi pas là, Barnabas. Oui, viens. Viens, l'Esprit de Christ est en nous. Nous sommes le peuple qui relâchons. Nous sommes le peuple qui a une mesure de pardon que personne d'autre peut avoir par l'Esprit de Dieu. Nous sommes le peuple qui est appelé à fonder une famille sur cette terre, la famille de ceux qui marchent dans un amour, dans un pardon, dans une grâce qui est au-dessus de tout ce que tout être humain peut connaître. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et quel dimanche! Ils arrivent à Antioche, et l'ayant trouvé, il l'amena, j'ajoute, de force à Antioche. Et pendant toute une année, pas un petit dimanche qu'il faut serrer les dents puis l'endurer. Il y a quelqu'un qui a dû le loger, il y a quelqu'un qui a dû le prendre, il y a quelqu'un qui a dû... Aïe, aïe, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent Barnabas. Quel dimanche, lorsque Barnabas dit, « C'est une joie pour moi ce matin de vous présenter notre prédicateur invité. » J'aimerais vous inviter à l'accueillir comme un frère. Anciennement, Saul de Tarse, je vous présente l'apôtre Paul. On l'accueille ensemble, chaleureusement. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est là que la connexion se fait, que la prophétie d'Abraham, ton nom va devenir... Toi qui relâches le modèle que tu as donné, par l'Esprit de Dieu, millénaires plus tard, en Christ, il y a une famille sur cette terre qui va s'élever. Son nom va être comme Christ. Avant ça, ils appelaient les disciples le mouvement. Mais maintenant, à partir de maintenant, et on ne sait pas qui les a en premier, la majorité des théologiens pensent que c'est même les inconvertis de la ville qui ont dit aux autres, là, on les appelle comme Jésus, c'est comme Christ. Ils sont comme lui. Ils pardonnent leurs ennemis. Ils accueillent parmi eux et grandissent avec et reçoivent même correction lorsque tu es capable de relâcher le passé au point que les offenses passées et même les personnes des offenses passées ne sont plus un empêchement dans ta vie, que tu es capable de recevoir et de marcher avec Dieu. Alors, nous serons appelés comme Christ. Puis quand je parle de l'Église, c'est trop vaste. C'est une personne à la fois. C'est moi, c'est toi qui as quelque chose à relâcher. Je termine avec un témoignage. Je vais regarder une vidéo qui dure 2 minutes et quelques. Et j'étais sur New York et l'émission s'approchait pendant la vidéo. Je vais sur New York plusieurs fois par année. Puis dans la dernière année, je suis allé à Times Square Church pour apporter la parole et aussi à Brooklyn Tabernacle, qui est une église juste fabuleuse. Et au milieu des chants et de la chorale, il y a une jeune fille qui s'est avancée et qui a donné son témoignage. Et moi, je pleurais comme un bébé d'entendre ça. Jasmine Smith a donné son témoignage. Et alors qu'on regarde à ce témoignage en terminant le message ce matin, laissez l'Esprit de Dieu vous remplir et vous re-remplir à nouveau afin de relâcher tout ce qui doit être relâché, qu'il n'y ait pas de conflit, de déchirement, d'offense qui demeure, de préjugés, de méfiance qui demeure entre nous. Nous sommes frères.
I never knew my father growing up. And I was raised by my grandmother, thinking it was my mom, because I didn't know any different. Well, I was at a park one day, and me and my cousin, we were playing, and I did something to make her upset. And so she just yelled out, at least I have a mother. so I ran home and I questioned my grandmother at the time, and I found out that my father was a drug addict, and he started to beat my mother. And one night, in a drunken rage, he came home jealous, and he proceeded to beat my mother. And one fatal blow to the head caused my mother to pass away. I hated him. I wanted him dead. What kind of man would do that? What saddened me the most was that he left her there for 3 days. So even at that point in time, there was anger and rage and bitterness still towards my father. And God started to slowly reveal that I had to get rid of this unforgiveness towards my father. And he had led me to contact my father in prison. This is a man that I haven't spoken to or had any type of contact in over 23 years. I sort of started by introducing who I was, but not as his daughter. I kept it pretty impersonal. He wrote back and he was excited to get my letter. And that's when he started talking about what a wonderful person I am and how kind and sweet I am. And I had to write him back and tell him that it wasn't me. There was nothing that I could do. That was all because of God. And it was God's love, that God loved me so much that he would in turn allow me to love him. And I expressed that to him. Even to get to that moment, I knew that it was God, because it couldn't have been me. I wanted him dead. I did. And so that's how I know God is real. It was over 2 years. And then my letter started to change. And I went from calling him by his name, his first name, Hosea, to calling him by father, dad. And I started to love him. And I can say today that I love him, not because of anything that he's bought me or anything that he's given me. It's because of the love that God has shown me. So I wrote him a letter telling him that I forgave him. I forgave him for taking my life away. I forgave him for the murder of my mother. I forgave him for taking every single thing that I thought that I had.
On peut applaudir la grâce de Dieu qui rend possible un pardon complètement inaccessible autrement. Quand j'étais à New York, il y a quelques mois, j'étais à New York, puis on va chanter dessus à ma force, parce que c'est seulement par la force du Seigneur qu'on peut véritablement dire qu'il n'y a pas de conflit entre nous, qu'on peut vraiment relâcher des choses qu'autrement nous tourmenteraient pour toujours, nous ralentiraient, nous paralyseraient pour toujours. Et lorsque j'étais à New York, il y a quelques mois, elle s'est avancée pour donner son témoignage, et elle a annoncé que derrière les barreaux, derrière les murs, il va être là encore pour longtemps. Son père avait donné sa vie au Seigneur, que des hommes de l'Église le visitaient, et que la semaine d'avant, son père avait passé par les eaux du baptême derrière les murs du pénitencier. Et il y a une libération extraordinaire, comme Lot libéré par Abraham à cet homme. Mais je crois que la plus grande libération, c'est elle qui l'a vécue. D'être libéré de tout ce qui était offense, de tout ce qui était tous ses liens, et de dire, Seigneur, par ton esprit, je veux être chrétien, je veux être chrétienne, je veux être comme Christ. Et ton esprit peut le rendre possible en moi. Est-ce qu'on peut juste rêver ensemble et applaudir ensemble ce qui pourrait arriver dans chacune de nos vies si on s'abandonne à l'esprit? Le classique. Ce refus qui augmente notre foi, ce relâchement et cette révélation qui augmente notre foi. Pendant que toutes les têtes sont penchées, je vais vous inviter à vous lever avec moi. On va se lever en sa présence. Et pendant que toutes les têtes sont penchées pendant un instant. En toute simplicité, moi, je suis le premier à répondre à cet appel. Si vous êtes ici ce matin, vous dites, j'ai quelque chose, j'ai quelqu'un, j'ai un événement, j'ai un échec, un déchirement, une incompréhension, un deuil à relâcher. Il faut que je le relâche ce matin. J'en ai pas la force par moi-même. Ça ne veut pas dire que c'est pas un déni, c'est pas accepter, c'est pas de justifier l'offense ou le mal qui a été fait. C'est simplement un relâchement devant Dieu.
que l'Esprit de Dieu rend possible. Si vous êtes ici ce matin, vous dites, j'ai quelque chose, j'ai un événement, j'ai un divorce, j'ai une souffrance, j'ai un abus, j'ai une trahison, j'ai un conflit, à relâcher devant Dieu, une déception, à relâcher devant lui ce matin, afin que ce flot de liberté, ce flot d'apaisement, ce flot de vie, afin que mes yeux s'ouvrent à nouveau, que je puisse voir ce que Dieu a pour moi, afin que je puisse me relever et marcher, aller m'emparer de ce que Dieu a pour moi. J'aimerais vous inviter juste à lever vos mains, partout à travers ce lieu, et dire, Seigneur, je te le redonne, je te le relâche. Il faut que vous le fassiez dès ce matin, allez-y. Et dans les jours qui viennent, le Seigneur, alors que vous allez lui remettre, parfois ça va pas, elle parle d'un, même dans son cas, elle parle d'un processus d'un 2 ans. C'est pas quelque chose, et pour certaines personnes, ça peut être instantané. Il y a un relâchement qui prend place, puis une action de Dieu. Où il remplace la haine par la paix, où il remplace le tourment par un apaisement, où il nous rend capable de relâcher, capable de pardonner, capable d'aimer à nouveau, capable de faire confiance à d'autres à nouveau, capable d'entrer dans ce que Dieu a pour nous à nouveau. Mais ce matin, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi, Seigneur, pour être ce peuple d'amour, être ce peuple au milieu d'une génération Bataclan, de conflits, de déchirements, de haine, de méfiance religieuse et autres, de méfiance sociale et raciale. Élève-nous comme ton peuple de réconciliation, comme ton peuple de non-jugement, comme ton peuple animé d'une capacité de pardon qui nous serait entièrement inaccessible sans toi. Aux hommes, cela est impossible, mais à mon Dieu, en moi, tout est possible.